Chères auditrices et auditeurs, vous êtes avec Véronique sur Radio Sud, la radio du Beau Canton. Dans ce Beau Canton se déroulait la Grande Mer, il y a des millions d'années. Et qui sait, peut-être pourrait-on y trouver encore une bouteille jetée à la mer, avec tout son grand mystère planté là, dans le bel humus de nos sous-bois. Voici l'émission « Une bouteille à la mer ». Larguons les amarres du quotidien et partons naviguer dans l'univers de cette bouteille-ci. Nous avons l'honneur aujourd'hui de naviguer en compagnie de l'écrivain-poète né à Manosque en 1895, Jean Giono, ainsi que le dieu Pan et sa doctrine philosophique pour laquelle tout est Dieu. Et vous, bien sûr, les auditeurs. Il faut que je vous confie qu'il est fort ambitieux de ma part de mêler mes écrits à ce grand homme, cet artisan d'images. Mais voilà, je n'ai pas pu résister. Nous allons entendre, pour illustrer ce déserteur du réel, des passages choisis de Regain, Les âmes fortes, Le troupeau et Que ma joie demeure. Nous allons entendre aussi Jean-Sébastien Bach, Que ma joie demeure, un extrait du poème Desiderata de Max Herrmann et Reggiani, Le temps qu'il reste. Elle délaça sa jupe et son jupon, et elle les baissa à la fois, et puis elle tira ses jambes nues du tas d'étoffes. Elle se frotta les hanches de toutes ses forces. Cette poussière de foin est partout, on se dirait noire de puce. Elle avait une grande faim d'être un peu nue, tout entière, d'avoir autour de la peau cette belle nuit aigrelette, pleine d'étoiles, de se faire prendre, comme ça, dans les bras froids du vent des Alpes, de ce beau vent laveur qui vous mettait du petit lait dans la cervelle. Elle enleva sa chemise, prit le torchon rude pour s'essuyer, puis elle souffla la bougie et elle s'approcha de la fenêtre qui soufflait des étoiles et du vent. Elle passa le torchon épais sous ses seins, bien autour, puis dessus avec la main ronde. Elle faisait comme quand on essuie des petits melons tachés par la boue d'arrosage. Et c'est vrai, avec toutes ces veines et ce bout dur comme un bout de tige, on dirait bien des petits melons, et craquant entre les doigts et dur. Elle a plaisir à essuyer comme ça le dessus de ses seins. Puis, elle frotta ses flancs, et elle tendait la peau pour aller au fond des plis de graisse. Elle y passait le torchon, et au bout de son doigt, comme dans les rainures. Elle frotta ses cuisses rousses. Le vent volait haut dans la nuit, comme un gros oiseau. À cette fin août, la terre sentait toujours le blé par ses étules et par ses gros gerbiers, abandonnés des hommes qui rôtissaient sur les airs. La nuit s'était calmée et il faisait chaud. Toute la chair de Julia respirait, et prenait son plaisir d'être libre et sans poussière, et de porter son sang enflammé jusque dans la tiédeur de la nuit. Elle luisait dans l'ombre. Elle se regarda. Elle se voyait dans le bain de la nuit. Elle se voyait maintenant, depuis ses seins jusqu'à ses pieds, en bas, au fond de l'ombre. Elle vint découvrir le grand lit. Il en a tellement l'habitude que la place du Joseph est encore formée, et que dans le blanc des draps, ça fait comme un homme d'ombre couché là. Elle tira le drap, le tendant pour effacer. La place du Joseph est toujours là. Elle passa sa chemise propre, elle s'allongea sur le lit à sa place, laissant à côté d'elle l'homme d'ombre. Le sommeil vint tout de suite, et juste au bord, Julia renifla sur sa main l'odeur du cheval. Puis, elle mit sa main entre ses cuisses et s'endormit. Aubignane. Aubignane est collée contre le tranchant du plateau comme un petit nid de guêpe. Et c'est vrai, c'est là qu'ils ne sont plus que trois. Sous le village, la pente coule sans herbe. Presque en bas, il y a un peu de terre molle et le poil raide d'une pauvre oserée. Dessous, c'est un vallon étroit et un peu d'eau. C'est donc des maisons qu'on a bâties là, juste au bord, comme en équilibre. Puis, au moment où ça a commencé à glisser sur la pente, on a planté au milieu du village le pieu du clocher et c'est resté tout accroché. Pas tout. Il y a une maison qui s'est comme décollée, qui a coulé du haut en bas toute seule, qui est venue s'arrêter les quatre fers d'aplomb au bord du ruisseau, à la fourche du ruisseau et de ce qu'ils appelaient la route, là, contre un cyprès. C'est la maison de Panturle. Le Panturle est un homme énorme. On dirait un morceau de bois qui marche. Au gros de l'été, quand il se fait un couvre-nuque avec des feuilles de figuier, qu'il a les mains pleines d'herbe et qu'il se redresse, les bras écartés, pour regarder la terre, c'est un arbre. Sa chemise pend en lambeaux comme une écorce. Il a une grande lèvre épaisse et difforme, comme un poivron rouge. Il envoie la main lentement sur toutes les choses qu'il veut prendre. Généralement, ça ne bouge pas ou ça ne bouge plus. C'est du fruit, de l'herbe ou de la bête morte. Il a le temps. Et quand il tient bien. De la bête vivante, quand il en rencontre, il la regarde sans bouger. C'est un renard, c'est un lièvre, c'est un gros serpent des pierrailles. Il ne bouge pas. Il a le temps. Il sait qu'il y a quelque part dans un buisson un lacet de fil de fer qui serre les coups au passage. Il a un défaut, Panturle, si on peut dire. Il parle seul. Ça lui est venu aussitôt après la mort de sa mère. Un homme si gros que ça, ça avait une mère comme une sauterelle. Elle est morte du mal. On appelle ça le mal. Mais c'est une vapeur. Ça prend les gens d'âge. Ils ont les trois sueurs, le point de côté, puis ça s'arrache tout là-dedans et ils meurent. C'est le sang qui se caille comme du lait. Quand elle a été morte, il l'a prise sur son dos et il l'a portée au ruisseau. Il y a là un pré d'herbe, le seul de tout le pays, un petit pré naturel, et il a quitté sa mère sur l'herbe. Il lui a enlevé sa robe et ses jupes et ses fichus, parce qu'elle était morte habillée. Il n'avait pas osé la toucher pendant qu'elle souffrait et qu'elle criait. Comme ça, il l'a mise nue. Elle était jaune comme de la vieille chandelle, jaune et sale. C'est pour ça. Il avait porté un morceau de velours et la moitié d'une pièce de savon. Et il a lavé sa mère de la tête aux pieds, partout, en faisant bien le tour des os, parce qu'elle était maigre. Puis, il l'a mise dans un drap, et il est allé l'enterrer. C'est du soir même qu'il s'est mis à parler seul. Devant les moutons, l'homme était seul. Il était seul. Il était vieux. Il était las à mort. Il n'y avait qu'à voir son traîné de pied, le poids que le bâton pesait dans sa main. Mais il devait avoir la tête pleine de calculs et de volonté. Il était blanc de poussière de haut en bas, comme une bête de la route, tout blanc. Il repoussa son chapeau en arrière, et puis, de ses poings lourds, il s'essuya les yeux. Il y eut comme ça, dans tout ce blanc, les deux larges trous rouges de ses yeux malades de sueur. Il regarda tout le monde de son regard volontaire, sans un mot, sans siffler, sans geste. Il tourna le coude de la route et on vit alors ses yeux aller au fond de la ligne droite de la route, là-bas, jusqu'au fond, et il voyait tout, la peine et le soleil. D'un coup de bras, il rabaissa le chapeau sur sa figure et il passa en traînant ses pieds. Le vieux berger. Le vieux berger était déjà loin, là-bas dans la pente. ça suivait tout lentement derrière lui. C'était des bêtes de taille presque égale, serrées flanc à flanc, comme des vagues de boue, et dans leur laine, il y avait de grosses abeilles de la montagne, prisonnières, mortes ou vivantes. Il y avait des fleurs et des épines, il y avait de l'herbe toute verte entrelacée aux jambes, il y avait un gros rat qui marchait en trébuchant sur le dos des moutons. Une ânesse bleue sortit du courant et s'arrêta, jambes écartées. L'ânon s'avança et, cou tendu, il se mit à pomper à pleine bouche en tremblant de la queue. L'ânesse regardait les hommes avec ses beaux yeux moussus comme des pierres de forêt. De temps en temps, elle criait parce que l'ânon tétait trop vite. C'étaient des bêtes de bonne santé et de bons sentiments. Ça marchait encore sans boiter. La grosse tête épaisse, aux yeux morts, était pleine encore des images et des odeurs de la montagne. Il y avait, par là-bas devant, l'odeur du bélier maître, l'odeur d'amour et de brebis folles, et les images de la montagne. Les têtes aux yeux morts dansaient de haut en bas. Elles flottaient dans les images de la montagne et mâchaient doucement le goût des herbes anciennes. Le vent de la nuit qui vient faire son nid dans la laine des oreilles et les agneaux couchés comme du lait dans l'herbe fraîche et les pluies. Le troupeau coule avec son bruit d'eau. Il coule à route pleine. De chaque côté, il frotte contre les maisons et les murs des jardins. L'ânon s'arrête de téter. Il est ivre. Il tremble sur ses pattes. Un fil de lait coule de son museau. L'ânesse lèche les petits yeux du petit âne, et puis elle se tourne, elle s'en va, et l'ânon marche derrière elle. Si je prends, à coup d'audace, une grande brassée de tous ces mots de Jean Giono, si je sors dehors quand le ciel est d'azur, et si je jette bien haut, très très haut dans le bleu, tous ces mots formés par cette plume. Les lettres s'en détachent alors, et éclaboussent de leur splendeur la mémoire de ce Giono de Manosque. Je retiens ma respiration. Je regarde ces paillettes de lettres par milliers s'éparpiller paresseusement. S'ébrouer et s'étirer, se jouer de l'apesanteur et s'interpeller comme des étudiantes en goguette. Elles remontent leurs jupes, montrent leurs jupons, froissent leurs faux-faux. Elles ne sont pas pressées, toutes ces lettres, de tous les mots, de toutes les plumes et de tous les écrits de Jean Giono. Elles remontent même parfois un peu, langoureuses, disparaissent dans l'épaisseur de l'atmosphère, réapparaissent ensuite, mutines, un peu rebelles. Amusées par nos regards inquiets, là, en bas, reviendront-elles ? Elle rit. Ne soyez pas inquiets, elles savent, et elles reviendront de leur folle escapade céleste. Car elles se doivent de participer à l'accomplissement de l'œuvre de Giono. Ensemble, ils sont les représentants de la planète en culture. Toutes les lettres éparpillées dans le ciel, celles qui ont été jetées là, par une grande poussée d'aventure et de liberté, prendront le chemin du retour lorsqu'elles seront lassées du grand air des altitudes. Question de respect, car Giono, c'est un grand homme, un patriarche, et elles sont ses muses. La représentation de ses pensées. Elles sont donc là, présentes, conscientes du rôle qu'elles ont chacune pour le bon agencement du tout, au grand complet de l'alphabet, dans l'azur détaché les unes des autres, libres de toute grammaire, de tout vocabulaire, de toute phrase constituée en un discours quelconque. Elles ont là, pour quelques instants encore, à respirer une belle vie rien qu'à elle. Et tout cela habite les vents, prend son élan, les quelques instants que dure encore ce grand festival de saints, de l'être et d'ange. Puis, enfin, lassées de leur sarabande céleste, elles se rassemblent dans l'azur du ciel et elles palabrent le temps d'un tour de terre. Elles prennent leurs ailes, sous leurs ailes, regardent la terre, décident d'y retourner. Elles décident de la décorer à nouveau, de façon diverse, sérieuse ou fantaisiste, selon. Alors, rappelons-nous ces lieux si nombreux qui habitent notre quotidien et dites, je vous pose la question à vous, les auditeurs attentifs. Que ferions-nous sans elles? Reconnaissons que si elles y sont, c'est de leur bon vouloir, et que si elles n'y étaient plus, ce serait une belle pagaille. Commençons par les pâtes lettres, celles qui se mangent et que les enfants cherchent au fond de leur bol de bouillon chaud en hiver. Les lettres accrochées aux enseignes des magasins et racontent déjà l'ambiance de ces lieux qu'elles surplombent. Au petit bénéfice, chez Léon, les flots bleus, galerie Lafayette, à la civette, café Pouchkine, chocolaterie et glace. Les lettres de rupture que l'on retrouve dans la malle du grenier lorsque le temps a offert son oubli. Les lettres qui emmènent le regard dans des mondes parallèles, telles les enluminures, délicatement dessinées de leurs riches robes d'or par des mains discrètes et patientes. Les lettres qui créent les mots, qui créent les émotions, instruments de meurtre ou de naissance. Les lettres des alphabets, portes d'univers ancestraux, de porte-drapeaux, et transmis par des hommes à leurs petits, cyrilliques, arabes, chinois, grecs. Les lettres outils et passe-partout, comme etc., abracadabra, amen, non. Les lettres des frontons anciens, qui racontent conquêtes, guerroiements, étendards et sang. Les lettres en sucre glacé, écrites sur le gâteau d'anniversaire sur lequel souffle le grand-père pour ses 80 ans, avec le petit Charles sur ses genoux. Les lettres gravées sur l'arbre, enlacées à jamais, comme les amants qui les ont vues naître, ou gravées sur leur peau. Les lettres sur la tombe d'êtres aimés. Si gît notre grand-mère tant aimée, nous ne t'oublierons jamais. Les lettres initiales en relief sur la chevalière ou posées sur le blason familial, témoins d'une appartenance. Les lettres tracées dans le sable, éphémères, condamnées par la marée. Les lettres dessinées par les nuages et emportées par le vent. Les lettres muettes, effacées trop souvent de nos vies. Merci, grâce, pardon. Elle décide donc, disais-je, ces lettres de redescendre sur la terre. Les voilà revenues chacune à l'exacte page, l'exact livre de l'œuvre de Jean Giono. Oui, elles contiennent le monde entier. Elles continuent leur danse d'initiée, de festale du savoir. Elles nous murmurent les mots de Giono. Patache, oserait, débelloir, regain, rémouleur. Soupe de pois, liane de clématite, opuscule, sapide, soc, marieur, guéret, alacé, margelle, puiné, daube, chaume, saladelle. Rieuses et panachées, enivrées des strasosphères, elles apparaissent alors comme les lettres qu'elles sont, enrichies d'un petit on ne sait quoi, pimentée d'un clin d'œil, débordante de mystères retenus, de rêves.
Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps encore? Combien? Je l'aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler. Et voir et croire et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis né, ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, le temps c'est comme ton pain, garde-en pour demain. J'ai encore du pain, encore du temps, mais combien? Je veux jouer encore, je veux rire de montagnes de rire. Je veux pleurer de torrents de larmes. Je veux boire du bateau entier de vin de Bordeaux et d'Italie. Et danser, griller, voler, nager dans tous les océans. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Je veux chanter, je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant le temps qui reste. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je veux des histoires, des voyages. J'ai tant de gens à voir, tant d'images. Des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des marrons, des tristes, des très intelligents et des cons. C'est drôle, les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je m'en fous, mon amour. Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord ?
Le ruisseau Gaudissart coule un bon moment sur les herbes couchées, puis il commence à s'enrager contre les rochers, et à la fin, il s'enfonce dans la colline. Il a tranché de grands bancs de pierre, il est descendu au fond de la colline, il est là, dans une nuit grise, à ronronner. C'est son nid. Des fois, il fait gonfler son beau ventre tout écaillé d'écume. Des fois, il s'étire entre deux os aigus de la roche, et des fois, il fait nuit tout à fait, et alors, on voit seulement son gros œil, couleur d'herbe, qui clignote et qui guette. Panture le connaît ça comme sa poche. Même dans les endroits où c'est l'ombre bouchée, il envoie son pied juste sur la pierre qu'il faut. Il tend la main, et il saisit juste la racine qu'il faut. Il colle son dos contre le flanc huileux des roches et il passe. C'est un raccourci. À l'autre bout du défilé, le ciel entre comme un coin de fer dans la colline. On commence à mieux y voir. Le Gaudissart file à toute allure comme dans une rigole de schiste bien poli. Il est là-dedans tout allongé, tout étiré, mâchuré par de grandes raies luisantes, qui partent de l'ombre comme des flèches. Et là-bas, dans le jour, se courbe. Il semble qu'on a étiré le ruisseau. Il semble qu'il y en a un là-haut, sur le plateau, qui tire sur la queue du ruisseau, et un autre, en bas, dans les plaines, qui tire sur la tête comme quand on veut y écorcher une couleuvre. Et puis, en approchant toujours dans la direction du jour, ça devient comme de la soie, et c'est tout molle, et tout en luisance, et ça se gonfle d'air et de vent. Et enfin, ça reste plié sur la pente de la colline, comme un foulard qu'on a mis à sécher au versant d'un talus. C'est que le gaudissart, tout mangeur de terre qu'il est, n'a pas assez mangé de plateau. Qu'il débouche sur l'autre bord, à 40 mètres de haut, et que de là, il saute. Il saute en 3 sauts, par 3 escaliers arrondis, entre des coussins de mousse. Un petit saut d'enfant d'abord, puis, d'un élan, il dépasse la roche et s'envoie dans une épaisseur de 6 mètres d'air. Il se reçoit sur le ressort de ses reins. Il roule sur une pente de 20 mètres. Et alors, d'un beau vol bandé comme un arc, il descend dans le plan soubérant au milieu d'une cuve qui roule du tambour. En bas, le sentier contourne la cuve, passe au-dessus du ruisseau sur 3 pierres plates et s'éloigne en écrasant les prés sauvages. Voilà, de Manosque à Vachère, c'est colline après colline. On monte d'un côté et on descend de l'autre. Mais, chaque fois, on descend un peu moins que ce qu'on a monté. Ainsi, peu à peu, la terre vous hausse sans faire semblant. Ceux qui ont déjà fait le voyage 2 ou 3 fois s'en aperçoivent parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de champs de légumes. Puis, parce que le blé est de plus en plus court. Puis, parce qu'on passe sous les premiers châtaigniers. Puis, parce qu'on traverse à gué des torrents d'une eau couleur d'herbe et luisante comme de l'huile. Puis, parce que enfin paraît la tige bleue du clocher de Vachère et que là, c'est la borne. On sait que la montée qui commence là, c'est la plus longue et c'est la plus dure. C'est la dernière. Et que d'un seul élan, elle va porter les chevaux, la patache et les gens en plein milieu du ciel, avec les vents et les nuages. On ne descend plus de l'autre côté. On va monter, d'abord sous bois, puis à travers une terre malade de lèpre, comme une vieille chienne qui perd ses poils. Puis on va être si haut qu'on recevra sur les épaules comme des coups d'aile, et en même temps qu'on entendra le ronflement du vent de toujours. Enfin, on abordera le plateau, l'étendue toute rabotée par la grande varlope de ce vent. On trottera un petit quart d'heure, et, dans une molle cuvette où la terre s'est affaissée sous le poids d'un couvent et de 50 maisons, on trouvera Banon. Il marche. Il est tout embaumé de sa joie. Il a des chansons qui sont là, entassées dans sa gorge à presser ses dents. Et il serre les lèvres. C'est une joie dont il veut mâcher toute l'odeur et saliver longtemps le jus comme un mouton qui mange la saladelle du soir sur les collines. Il va, comme ça, jusqu'au moment où le beau silence s'est épaissi en lui et autour de lui comme un pré. Il est devant ses champs. Il s'est arrêté devant eux. Il se baise, il prend une poignée de cette grande terre grasse, pleine d'air, et qui porte la graine. C'est une terre de beaucoup de bonne volonté. Il en tâte entre ses doigts toute la bonne volonté. Alors, d'un coup, là, debout, il a appris la grande victoire. Il lui a passé devant les yeux l'image de la terre ancienne, renfrognée et poilue, avec ses aigres genêts et ses herbes en couteau. Il a connu d'un coup cette lande terrible qu'il était, lui, large ouverge au grand vent enragé, à toutes ces choses qu'on ne peut pas combattre sans l'aide de la vie. Il est debout devant ses champs. Il a ses grands pantalons de velours brun à côtes. Il semble vêtu avec un morceau de ses labours. Les bras le long du corps, il ne bouge pas. Il a gagné, c'est fini. Il est solidement enfoncé dans la terre comme une colonne.
The end of
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Sud. Il est à présent l'heure d'accoster sur la terre ferme du beau canton et de nous quitter jusqu'à notre prochain rendez-vous dans les bras puissants des alizés marins. Remerciements à l'équipe de Radio Sud.